Emmanuel et Pi, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Notre âme est comme une oreille spirituelle. Et quand on entend Dieu parler à notre âme, il y a un écho, il y a une résonance, il y a une amplification. L'écho de la voix de Dieu, ça peut être la Bible qui est transmise. Des encouragements, de la prière, de la louange. Et nous allons pouvoir chanter les attributs de Dieu. La voix de Dieu s'amplifie dans notre âme et notre foi s'affermit. Alors on va le chanter ensemble, malgré les saisons de notre vie. On y va ensemble ? Quand la nuit tombe, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi, ton amour m'environne, lève le plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, lève le plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Écho en mon amour. Oh, 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 oh. À chaque saison, envers moi, qui peut s'opposer à ta volonté, qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu tout est tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. On y va ensemble. Ton amour m'environne, même le plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, même le plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Tu es avec nous,
tu es avec moi.
Ton amour m'environne, même le plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, lève le plus haut. Il résonne en mon âme, en mon âme. Allez, on y va ensemble, l'église, on y va.
Ton amour m'environne, lève le plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho.
Acclamer dans ce lieu, malgré la pluie, malgré les saisons, le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Nous sommes venus le célébrer dans ce lieu. La Bible dit ceci: acclamez Dieu, gens du monde. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Chantons ces vérités. Le nom de Jésus est majestueux. Dieu est le tout autre. Que ton nom, Seigneur, est majestueux. Ton nom est majestueux. Dieu, proclamons-le. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons. On va proclamer le nom de Jésus. Jésus.
Jésus.
Jésus. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Sa voix fait écho dans notre âme. Le proclamons, cela pousse à la proclamation. Et à un moment donné, il faut rester ébloui devant le Seigneur. Malgré tout ce qui s'est passé cette semaine, vous avez l'occasion avec nous dans ce lieu de rester ébloui devant le Seigneur, de prendre du temps devant le Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire au travers de cette prière chantée ou de ce chant prié. Nous sommes éblouis, Seigneur. Et s'il y a dispersion dans notre esprit, Saint-Esprit, aide-nous à être focus sur toi, à venir vers toi dans le secret de notre cœur. Profitons de cet instant, les amis, où l'Église est rassemblée pour pouvoir faire cette prière. Je viens vers toi.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là.
Dieu sera toujours là. Tout contre toi ce matin, Seigneur.
Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es.
C'est notre moment, Église. Proclame-le ébloui.
Ébloui devant toi, éternel.
Ébahi.
Ébahi par l'amour de ton ciel.
Je suis là, vous êtes là.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi,
oh, près de toi, dans ta présence, par la foi, chantons le jeu. bon endroit. Dites-le, je suis là.
Je suis là.
Le moment est tellement bon pour nous, Église, d'être rassemblés, de prendre le temps un jour de semaine, de pouvoir venir dans la présence de Dieu ensemble, là où deux ou trois sont assemblés. Dieu dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps de prière collective ensemble? Que tous les disciples de Jésus dans ce lieu puissent dire à Dieu leur attachement, leur amour. Est-ce que des voix peuvent commencer à s'élever dans ce lieu pour dire « Tu es ma lumière, Seigneur ». Tu es le Père dont j'ai manqué dans ma vie. Tu es ce chemin sur lequel je marche aujourd'hui. Seigneur, élève-toi encore et encore. Donne-moi de ne pas oublier qu'un jour j'étais perdu et tu m'as retrouvé. Un jour j'étais perdu dans mon péché et tu m'as restauré. Et qu'on puisse être une église qui spirituellement se joint à tous nos frères et nos sœurs dans le monde pour élever le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble dans ce lieu? La maison de Dieu est appelée une maison de prière. Et nous voulons être dans cette dynamique de prière ce matin, avant d'aller plus loin dans ce chant, de proclamer à Dieu, que notre âme puisse dire à Dieu, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous permets de vivre. Merci pour cette occasion unique que nous avons de nous rassembler ici à Strasbourg, à la Méno, à cet endroit, et de pouvoir élever le nom de Jésus dans ce lieu. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit élève mon âme à l'adoration, que je n'oublie pas les bienfaits de Dieu, que je n'oublie pas que Dieu est fidèle, que je n'oublie pas que Dieu est bienveillant, que je n'oublie jamais, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le corps peut oublier, ma mémoire peut oublier, mais mon âme, le Saint-Esprit a gravé l'amour de Dieu en moi. Il m'a marqué de son sceau. Proclamons notre identité en Jésus ce matin. Ne perdons pas de temps. Regardons au roi des roi, regardons à la croix, regardons à Jésus. Si ça fait longtemps que tu n'as pas été ébloui par Jésus, le moment est là d'être ébloui et de faire cette prière avec nous. Tu es ma lumière, tu éclaires ma vie, tu es ma lumière, Seigneur.
Tu es ma lumière, en toi j'ai
quantique des degrés, de degré en degré, on continue à élever notre âme vers Dieu. Tu es.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un reçois ma prière.
Mon âme, tu n'es pas fatiguée ce matin. Continuons, continuons à lui dire qu'il est la lumière de notre vie. sa bienveillance. Ô Éternel, vaut mieux que tout
ce que j'ai vu.
Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel,
vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous
de ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui, convient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher. Ensemble, Église. Ta bienveillance, ô Éternel,
vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient et le pays est à... Seigneur, c'est notre prière sur notre pays, que ta gloire descende. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Sa bienveillance, ô Éternel, que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. une main d'acclamation à Jésus pour sa bienveillance, sa bienveillance, sa bienveillance. Vous pouvez prendre place et avant de prendre place, faites un petit check de bienvenue, très très respectueux de dire bienvenue. Bienvenue dans ce lieu. Si vous n'avez pas encore salué quelqu'un, s'il vous plaît, saluez-le maintenant. On vous salue, vous qui êtes en ligne. Et on vit un temps de célébration à la gloire de Dieu. Soyez bénis.
Il est tellement bon de se rappeler la bienveillance de Dieu. Tellement bon de se rappeler que sous son aile, on peut s'abriter, on peut se mettre à l'abri. Et ce matin, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous à dire, Seigneur, je mets mes pieds sur le rocher et je m'abrite à l'ombre de tes ailes. Et on sait que Dieu est celui qui prend soin de chacun de ses enfants. Alors si tu es là pour la première fois ce matin, sache que tu es au bon endroit. Parce que c'est là où tu peux découvrir celui qui soutient, celui qui accompagne, celui qui porte, celui qui est avec nous jour après jour. Est-ce qu'on peut dire amen ?
Amen.
Avant de passer au message, j'aimerais vous faire quelques annonces. Simplement vous partager que la librairie renouvelle ses livres régulièrement et n'hésitez pas à prendre le temps de vous arrêter. Quand vous sortez de l'église, juste à la salle juste à droite, vous avez tout un espace de librairie avec beaucoup de livres, beaucoup de ressources. N'hésitez pas à prendre du temps, vous arrêter, regarder les livres qui sont là. C'est un bon moment aussi et ça nous fait tous grandir. Un petit rappel qui est vraiment important pour nous aujourd'hui. Comme vous savez, on doit agencer comme il le faut les flux des voitures le dimanche matin. Et encore aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué en termes de logistique et d'organisation. On vous demande, s'il vous plaît, d'être vigilant dans la façon dont vous vous garez et surtout la façon dont vous circulez devant l'église. En particulier, les demi-tours juste devant l'église, c'est dangereux. Et ça met en danger les gens qui passent. Et on a vraiment besoin qu'on soit tous un peu plus disciplinés sur cet aspect-là. Désolé, je suis un peu le gars rabat-joie, mais on en a vraiment besoin pour que ça se passe bien pour chacun d'entre nous. Alors quand vous arrivez, on ne fait pas demi-tour devant l'église, on va un peu plus loin, on peut aller jusqu'au bout de la rue d'un côté, jusqu'au bout de la rue de l'autre côté, mais s'il vous plaît, ne faites pas demi-tour devant l'église parce que c'est compliqué. Et encore, une des premières fois, on a failli écraser un vélo. Et je pense qu'on n'a pas besoin. On est d'accord avec ça? Donc on compte sur vous, on a besoin de vous et on est ensemble pour ce projet-là. Merci à chacun pour votre présence et votre encouragement avec nous sur ce défi. Le samedi 13 mai, on aura un week-end avec Luigi Davi, avec une conférence sur les adolescents, donc de 9h30 à 16h30. Luigi Davi est pasteur et conférencier, il a écrit un livre sur l'adolescence. Et le public cible, ceux qu'on aimerait qu'ils puissent venir, c'est parents, grands-parents d'adolescents, futurs parents et grands-parents, leaders, responsables d'ados, bref, tous ceux qui sont d'une façon ou d'une autre touchés par le monde de l'adolescence. On parlera en particulier en termes de contenu d'une question qui est fondamentale, comprendre et accompagner les adolescents dans la question de la crise d'identité, le rejet de la foi. On parlera d'améliorer la communication parents-adolescents. Autant vous dire que vous pouvez commencer déjà à prier. Parce que ça va être un vrai défi. Mais alors, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à nous rejoindre le samedi 13 mai pour cette conférence avec le pasteur Luigi Davi et qui prêchera avec nous, qui prêchera le dimanche matin. Aussi, on aura la joie de pouvoir l'entendre dimanche 14 mai. Et c'est sur inscription, merci. Et voilà, tout est écrit. Il suffit de flasher le code, comme ça vous pouvez vous inscrire directement. Comme ça, on peut aussi bien organiser les choses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos seront aussi sur le site web www.epi-strasbourg.eu. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour cette conférence. C'est gratuit, mais inscrivez-vous. Comme ça, ça sera plus facile pour l'organisation. Le 10 et 11 juin. On a un événement particulier ici en Alsace qui s'appelle le Festival. On vous a déjà donné quelques informations. Alors qu'est-ce que c'est que le Festival ? Eh bien le Festival, c'est un grand rassemblement pour les évangéliques d'Alsace et qui va se diviser en trois parties. Une partie qui va nous parler d'un grand concert de louanges qui aura lieu le samedi soir. Avec plein d'artistes que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà entendu, un concert de louanges exceptionnel, Sandra Kwame, Noémie Kessler, Samuel Olivier, Sébastien Korn, Sébastien Demré, Jimmy Lahaye, Ketsia et Thomas Blanc, c'est les artistes qui seront là, et il y a déjà des places, il y a déjà pas mal d'inscrits sur ce concert-là. Si vous voulez vous inscrire, il ne faut pas tarder parce que les places se remplissent de plus en plus. Donc ça sera au Parc de la Citadelle le 10 et 11 juin. On aura également un village des solidarités. Ce village des solidarités permet de mettre en avant les œuvres qui travaillent auprès de la solidarité en Alsace et vous pourrez vous déplacer, découvrir un petit peu chacun des stands pour vivre ce temps sur la solidarité et montrer que le monde chrétien est capable d'être solidaire. Vous y croyez ? Amen. Alors n'hésitez pas. Et le dimanche matin, vous savez que d'habitude on a le culte de l'entente. Eh bien là, on va avoir une célébration spéciale qui aura lieu au parc de la Citadelle, en extérieur mais sous tente, avec les mêmes artistes, et on fera un culte spécial, une célébration en Alsace le dimanche 11 juin, que je ne me trompe pas sur la date. On aura aussi un temps spécial d'accueil pour les enfants, pour les ados. Alors surtout, ne ratez pas ce moment. Vous pouvez venir vivre en famille le festival. Ça va ? Est-ce que c'est bien clair ? Merci. Et heureusement qu'on est une équipe, parce que c'est pour vous rappeler que la célébration du dimanche matin sera sur inscription. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Pourquoi ? Parce que le nombre de places est limité. Donc il faut s'inscrire. On a à peu près 3000 places. Okay ? Donc c'est assez large, mais ça peut vite se remplir. Okay ? Comment vous vous inscrivez ? Vous allez sur le site festival.org. Et sur ce site festival.org, vous avez m'inscrire, soit au concert du soir, soit à la célébration du dimanche matin. Inscrivez-vous rapidement. Il n'y aura pas de célébration ici à l'EPI. On ira tous là-bas. Donc, ce sera vraiment important qu'on y soit et qu'on représente l'EPI. Mais vous doutez que s'il y a le CNEF 67 et le CNEF 68, plus l'entente, il va y avoir du monde. Donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. 10 et 11 juin, le festival. Merci pour votre attention. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on puisse prier et qu'on puisse préparer nos cœurs pour le message. Vous êtes OK avec ça ? Amen. Allez, c'est parti, on prie ensemble. Seigneur, on a beaucoup de joie d'être ensemble ce matin et on sait que tu es là à nos côtés. On a entendu parler de ta bienveillance, on a entendu parler de ton soutien. Et encore, on va entendre parler de ta parole maintenant. On va entendre, Seigneur, ce que tu as déposé sur le cœur de RP. Et je te prie vraiment encore de l'accompagner, de le bénir. Merci pour ce temps béni à tes pieds aujourd'hui. Merci parce que c'est un rendez-vous divin que toi, tu n'as pas raté. Alors nous, on ne veut pas le rater. Merci pour ta présence au milieu de nous. À toi la gloire, Jésus. Amen.
Amen. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient heureux de célébrer Jésus ce matin dans la louange ? Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir célébrer ce trésor merveilleux qu'est la personne de Jésus, qui décide d'être accessible pour chacun d'entre nous encore, et c'est tellement bon de pouvoir le louer, l'adorer. Je veux vraiment remercier l'équipe pour le travail ce matin qui nous ont conduits à ses pieds. Et on voudrait terminer ce matin cette thématique qu'on a abordée, qu'on a commencé au mois de février sur les paraboles du royaume à contre-courant. Pendant 5 messages, on a étudié toutes ces paraboles du royaume qui sont développées dans Matthieu 13. Et j'aimerais qu'on puisse faire une petite synthèse de tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu entendre pendant ce temps. Ce qu'on a vu premièrement, c'est que Jésus est venu instaurer un royaume à contre-courant, qui ne fonctionnait pas selon les standards de l'époque. Vous le savez, le peuple hébreu, le peuple d'Israël vivait sous la domination de l'Empire romain, et il s'attendait à ce qu'un libérateur se lève, un chef se lève pour libérer le peuple de la servitude, pour libérer le peuple de l'oppression. Pourtant, c'est pas ce que Jésus est venu faire lorsqu'il est arrivé. Il est venu communiquer un message, il est venu enseigner quelque chose à propos de ce royaume. Et premièrement, c'est que ce royaume n'était pas quelque chose qui s'impose, mais un royaume qui se propose et qui s'accepte, qui se saisit par la foi. Un royaume différent de ce que eux attendaient. Et le résultat de cette acceptation par la foi n'était pas une libération des ennemis extérieurs, mais une libération d'un ennemi intérieur, qu'on appelle le péché. C'est tous ces choix qu'on fait en dehors de Dieu. Et lorsqu'on pêche, on passe à côté du but, on passe à côté du plan, on passe à côté de ce que Dieu voulait pour nous. On a manqué la cible. Ensuite, dans la parabole de la mauvaise herbe, Jérôme nous a montré que le royaume de Dieu est un royaume discret, un royaume patient qui arrive tranquillement, mais qui s'établit sûrement. À ce jour, le mal et la souffrance cohabitent avec le royaume de Dieu. Et nous devons faire affaire avec cela. Mais nous croyons qu'il y a un temps où Jésus fera cesser le mal et le malheur sur toutes ses formes. Amen. Mais en attendant, nous vivons dans cet entre-deux, dans ce maintenant et dans ce pas encore. Dans la parabole du grain de moutarde et du levain, Anne nous a expliqué comment ce royaume commence petit, mais qu'il est vraiment puissant pour opérer des changements et des transformations dans nos vies. Elle a poursuivi dans la parabole du trésor caché, pour nous révéler la valeur de ce royaume et comment ce royaume devait devenir une priorité pour nous qui nous recommandons d'être des disciples de Jésus. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent en cours de route ou pour ceux qui ont simplement envie de dire mais de quoi ils parlent, je vous invite à aller sur le YouTube de l'église ou sur notre site internet, vous pouvez réécouter l'intégralité de la série si vous voulez avoir plus d'éléments par rapport à tout ce qu'on communique sur le royaume. Mais ce que nous voulons voir ce matin, c'est que l'ensemble de ces paraboles de Jésus, l'ensemble de ces paraboles qu'il nous communique, qu'il communique à ses disciples, elles ont un but. Celui de transmettre quelque chose, celui de transmettre ce royaume. J'ai la grâce d'avoir mon jour de repos hebdomadaire le lundi matin. Le lundi, pardon. Mais le lundi matin, quand je me lève, sur la table se trouve toujours un petit billet. Ce petit billet, il est daté et c'est écrit RP. Pourras-tu vider le lave-vaisselle, pendre la lessive, enlever tes chaussettes qui traînent, aller chercher un lot de baguettes dorées. Attention, le doré est très important. Je me lève avec ce petit mot et puis c'est signé « Bisous mon doudou, je t'aime ». Alors face à ce message, bien évidemment que quand je le lis, je suis tellement touché de tout cet amour débordant pour son mari. Je suis touché dans mon cœur. Mais vous savez, il y a un but à ce message. Il y a un but. Je pourrais l'apprendre par cœur. Et quand ma femme rend, dire, écoute, tu m'as demandé de vider le lave-vaisselle et puis d'y mettre les verres et les formes qu'il faut. Mais si je fais ça et que je n'ai pas agi, je vais être passé à côté du but. Ça ne va pas satisfaire le cœur de mon épouse. Alors oui, elle veut m'encourager au travers de ses paroles, mon doudou, je t'aime. Mais elle attend une action derrière. Elle attend quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Surtout les chaussettes. Elle veut que je me sente aimé par sa déclaration, mais pour que ça me pousse à l'action. Et de la même manière, Jésus a des attentes envers nous concernant son royaume. Et on va aller dans ces deux derniers versets du chapitre 13 de Matthieu, versets 51-52. Le texte nous dit, Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?» Donc toutes les paraboles qu'on vient de synthétiser en quelques minutes. Les disciples répondent, « Oui, Seigneur, répondirent-ils. » Et il leur dit, « C'est pourquoi ?» Tout spécialiste de la loi instruit dans ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le premier point que je voudrais soulever avec vous, c'est que nous avons un appel à transmettre le royaume de Dieu. Si tu peux envoyer la slide, merci. Un appel à transmettre le royaume de Dieu. Après avoir exposé toutes ces différentes paraboles, Jésus leur demande s'ils ont compris ces dernières. Et les disciples vont dire, oui Seigneur, on a capté les enjeux du royaume, on a compris. Et le terme employé ici, c'est le verbe comprendre qu'on a vu dans les paraboles, notamment dans celle du semeur, qui nous parle d'une compréhension du cœur. Ça parle, quand on parle du cœur, on ne parle pas de la pompe cardiaque, mais on parle du siège, de notre pensée, de nos décisions, de notre volonté. Est-ce qu'ils ont compris ce que Jésus attendait d'eux au travers des paraboles? Dans tout chapitre sur les paraboles, ça signifie comprendre le message du royaume après en avoir mesuré les implications. Les paraboles, elles obligent leurs auditeurs à être attentifs, à les écouter. On l'a entendu ce matin dans le chant « J'écouterai ce que dit Dieu ». Une invitation à être attentif, à écouter et enfin à s'engager. Les disciples vont répondre « Seigneur, on a compris ». Seigneur, on a compris les enjeux, on comprend ce que tu veux. Alors bien sûr, comme moi, vous êtes des lecteurs du Nouveau Testament et vous savez que dans la suite des évangiles, on voit qu'ils n'ont pas tout compris parfaitement. Mais enfin, ils ont saisi l'essentiel. On voit qu'il y a quelque chose qui a été acquis et il y a un changement qui a commencé à prendre place en eux. Ils ont grandi dans leur compréhension du royaume. Et cette réponse des disciples, oui, elle est déjà en train de nous communiquer quelque chose ce matin. Ce n'est pas parce que nous ne maîtrisons pas tous les aspects de l'évangile que Dieu ne veut pas se servir de nous pour transmettre son royaume à ceux et celles qui nous entourent. J'aime cette citation du pasteur Patrice Martorano qui compare la foi à un voyage. Il nous dit « La foi est un voyage et tout ne sera pas réglé ce week-end. » On est OK avec ça? Qui c'est qui a déjà tout réglé dans la salle là? Moi je baisse tout de suite ma main, OK. La foi est un voyage et tout ne sera pas réglé ce week-end. Mais ça ne nous empêche pas de transmettre quelque chose. Vous savez, Dieu, et je le dis souvent, n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ce qu'il appelle. Et il t'appelle à être un vecteur, un communicateur, une communicatrice de son royaume. Au travers de ce que tu as vécu, expérimenté avec Jésus, là où tu en es, même si tu n'as pas tout compris, tu peux déjà partager des bribes du royaume, même si tu n'as pas tout compris. En tout cas, on voit que dans leur oui, ça va générer quelque chose. Jésus va leur dire, vous avez compris ? Et les mots qui suivent, c'est pourquoi ? C'est pourquoi ? La conséquence de leur compréhension va déboucher sur un appel, va déboucher sur une mission. Jésus va leur parler des spécialistes de la loi. Des spécialistes de la loi instruits ou, pour ceux qui ont des plus vieilles versions de Bible, des scribes. Et le problème, c'est que nous, on est piégés avec le mot scribe quand on lit nos versions. Parce que pour nous, un scribe, c'est quelqu'un qui prend des notes. Mais le scribe de l'époque était celui qui transmettait la loi dans les synagogues. Il est celui qui comprenait le texte et qui l'enseignait à d'autres. Leur fonction était d'interpréter la loi. C'était des connaisseurs de la Torah, la première partie de la Bible. En fait, c'était les théologiens de leur époque. Et Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il vient juste d'enseigner, vous êtes les théologiens de votre génération. J'aimerais que tu regardes ton voisin ce matin et que tu lui dises, tu es un théologien. Tu es une théologienne, on a le droit de le... Alors là, j'en vois déjà dire dans cette salle, wow. J'ai pas besoin de théologie, j'ai besoin de Jésus. Non, pas amen. On va y aller. J'ai pas besoin de théologie, j'ai juste besoin de Jésus. Mes amis, tout le monde dans cette salle fait de la théologie. La théologie, ça fait référence à Dieu. Ça, c'est aussi ce qu'il révèle de lui dans les Écritures. Et la théologie concerne notre tentative d'essayer de comprendre la vérité que Dieu nous communique. Et on fait tous cela. Vous savez, on a tous dans cette salle des croyances à propos de ce que Dieu enseigne. Si ce matin tu es fidèle dans ton mariage, c'est parce que tu as une théologie du mariage. Tu as une croyance sur ce que Dieu enseigne sur le mariage. Si tu es fidèle dans ta déclaration d'impôt, alors je réponds tout de suite à ceux qui ont besoin. Freddy va bientôt vous communiquer vos feuilles pour déclarer pour le rabais. Donc vous inquiétez pas, n'a pas besoin de nous appeler au bureau, c'est en cours et il se tiendra à l'issue des célébrations à temps et en heure pour que vous puissiez faire votre déclaration. Mais je reviens à mon message. Quand vous faites votre déclaration d'impôt et que vous êtes vrai et juste, c'est parce que vous avez une théologie de ce que Dieu enseigne sur l'intégrité en tant que disciple de Jésus. Quand tu viens à l'église le dimanche matin, pour ceux et celles qui sont peut-être en bas avec les enfants en train de servir, pour ceux qui donnent financièrement et qui soutiennent l'œuvre financièrement, c'est parce que tu as une théologie de ce que Jésus veut pour son église. Mes amis, on fait tous de la théologie ici, sans le savoir, mais on en fait tous. Le théologien R.C. Sproul écrira la chose suivante, et ça va être projeté dans le livre « Nous sommes tous des théologiens ». Il lit la chose suivante. « La question n'est donc pas de savoir si nous allons investir dans la théologie, mais une question de savoir si notre théologie est saine ou non. » On fait tous de la théologie. Alors, après avoir enseigné et avoir été enseigné, et avoir compris ce que ce royaume était, c'est-à-dire à contre-courant de la pensée dominante de l'époque, mais de savoir aussi que ce royaume était puissant pour changer des vies une à la fois, les disciples étaient appelés à être des communicateurs de ce royaume autour d'eux. Et je crois qu'en tant qu'église de l'Épi, Dieu a déposé un mandat sur nous encore en 2023. Amen. Il y en a quelques-uns qui pensent qu'ils sont appelés par Dieu à être des communicateurs du royaume. Transmettre ce royaume avec nos amis, transmettre ce royaume avec nos enfants, transmettre ce royaume avec nos collègues, transmettre ce royaume dans notre ville, transmettre ce royaume dans notre département, transmettre ce royaume dans notre région et sur notre nation. C'est un appel que Dieu nous lance. Et ce royaume, mes amis, il a un fondement, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon deuxième point ce matin, Jésus, le fondement de ce royaume. Jésus va poursuivre dans cette transmission, dans cette notion de transmission du royaume, et il va comparer les disciples qu'il vient d'appeler spécialistes de la loi, il va les comparer en tant que maîtres de maison. Les maîtres de maison qui tirent quelque chose de leur trésor. Et c'est intéressant parce que le mot trésor, il y a plusieurs interprétations dans ce passage, mais elles pointent toutes vers la même chose. Alors ce trésor, ça pouvait être le bas de laine ou la petite caissette où le propriétaire mettait son argent et qui allait servir pour faire vivre la famille ou pour payer ses ouvriers. Ensuite, ça pouvait être les réserves naturelles, c'est-à-dire le blé, l'huile, les provisions diverses. C'était le grenier à provisions où il allait chercher chaque jour, où il allait puiser chaque jour dans cette réserve pour pourvoir aux besoins de la famille. C'était également le lieu de stockage des outils où il allait chercher les outils pour les besoins de son travail. Dans tous les cas, le trésor n'est pas juste là pour faire beau et dire « regardez combien je suis riche ». C'est un trésor dans lequel on doit venir puiser, dans lequel on doit venir chercher pour communiquer quelque chose, pour communiquer la vie, quelque chose qui doit être mis en action. Et le texte nous dit que ce trésor était composé de choses nouvelles et de choses anciennes. Et c'est dans ces deux choses-là que chacun d'entre nous, disciples de Jésus, devons puiser. C'est dans cette nouvelle alliance que Jésus est venu communiquer au travers de ses paraboles du royaume, mais aussi dans l'ancienne alliance révélée dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qui expliquera le pasteur et théologien David Platt, il dira « De même qu'un propriétaire possède dans sa maison des objets de valeur du passé et du présent, de même le disciple du royaume sait que l'ancien et le nouveau ont de la valeur. Il ne rejette pas la révélation de Dieu dans le passé, il l'apprécie et la chérit. En même temps, il comprend la révélation passée de Dieu à la lumière de la révélation présente de Dieu, en particulier la révélation présente du Christ en tant qu'accomplissement suprême de tout ce que Dieu a promis. » Mes amis, le sang des animaux répandus pour le péché dans le culte juif pointait vers celui du plus grand, de l'agneau de Dieu, du sacrifice qu'était Jésus. L'ancienne alliance, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était une ombre de la réalité accomplie par Jésus à la croix. Ça pointe vers l'œuvre de Jésus. Ça pointe vers l'œuvre de Jésus. Sa vie, sa mort et sa résurrection, Matthieu nous en a parlé la semaine dernière. C'est le trésor du Nouveau Testament. Le nouveau n'est en fait que l'accomplissement de l'ancien. Les prophéties de l'Ancien Testament éclaire la personne et l'œuvre de Jésus. Et c'est par le nouveau que l'ancien prend son sens. Le problème, c'est que les chefs religieux de l'époque étaient tellement aveuglés par leur interprétation littérale de ce que devait être le royaume de Dieu, qu'ils ont été aveuglés de ce que devait être le Messie pour Israël, qu'ils ont été aveuglés quant à la priorité du besoin spirituel que Jésus est venu leur apporter en offrant sa vie à la croix. Une libération intérieure qui produit des changements extérieurs. Eux voulaient juste un libérateur de leurs problèmes, mais ils ne voyaient pas que le problème numéro un, il était là. Jésus est venu régler un problème spirituel. Je le répète ce matin, ton problème et mon problème numéro un, c'est pas le 49-3, c'est pas la réforme des retraites, c'est pas le prix du gasoil, c'est pas ChatGPT, ceux qui ont la ref. Ce n'est pas le choc des cultures, mais c'est notre orgueil et notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Et tous les dégâts que ça cause dans nos relations avec le ciel, mais aussi dans nos relations avec celles et ceux qui sont autour de nous. C'est ça le problème numéro un, et c'est ça que Jésus est venu régler. C'est pour ça qu'il est venu. C'est ce problème que les prophètes ont pointé et que Jésus est venu régler. Considérons, mes amis, le privilège que nous avons aujourd'hui d'avoir accès à la connaissance de la parole de Dieu. On l'a dans toutes les langues, on l'a dans toutes les versions, des mots compliqués à des mots simplifiés. On a tous accès à la parole de Dieu. On a l'Ancien Testament dans son intégralité. Et par exemple, nous pouvons voir comment plus de 700 ans auparavant, le prophète Ésaïe décrit la mission de Jésus. Et j'ai juste repris ce verset que Jérôme a prêché lors de la soirée de louange, mais qui est tellement fort, Ésaïe 53, verset 5. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Voilà le pourquoi de la venue de Jésus. Nous, notre cœur tortueux, méchant par-dessus tout. Ce verset est juste un exemple brillant qui pointe vers le Christ de manière puissante. Le célèbre prédicateur Charles Spurgeon, surnommé le prince des prédicateurs, a dit la chose suivante. « Ne savez-vous pas, jeune homme, que de chaque ville, de chaque village et de chaque hameau d'Angleterre, où qu'il soit, par une route qui mène à Londres. Ainsi, de chaque texte de l'Écriture, il y a une route qui mène à la grande métropole, le Christ. » Les Écritures pointent vers Jésus. Jésus est le seul trésor dans lequel nous devons venir puiser pour transmettre à notre génération, en tant qu'église de l'Épi ici à Strasbourg, transmettre à nos contemporains, puiser dans ce trésor qui est la personne de Jésus. Mais la question maintenant, c'est comment nous voulons le faire. Et c'est mon troisième point ce matin, transmettre le royaume avec cœur. Reprenons ce qu'on avait vu dans les derniers messages. On l'a dit tout à l'heure, c'est un royaume qui se propose et qui ne s'impose pas. C'est un royaume discret, mais puissant. Alors, je vais prendre deux exemples ce matin. Celui de partager l'évangile avec nos jeunes, nos enfants, nos ados. Et celui de partager l'évangile avec des amis, des collègues, etc. Alors, on va commencer par nos enfants, ados, jeunes. J'aimerais qu'on garde à l'esprit ce qu'on vient de dire juste avant. L'évangile n'est pas quelque chose qui s'impose, mais quelque chose qui se propose. Qu'on garde ça à l'esprit. Alors bien évidemment, lorsque les enfants sont tout petits et jusqu'à l'adolescence, ils doivent suivre leurs parents et aller à l'église même s'ils n'ont pas envie d'y aller, parce qu'ils ne sont pas aptes à se gérer. Le problème, c'est lorsque l'adolescent commence à venir, lorsque les hormones commencent à travailler. Là, ça devient plus difficile pour des parents d'encourager, de savoir pourquoi il faut venir le dimanche matin. Et il n'y a rien de plus normal à cela, mes amis. C'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence. On connaît tous l'expression « est-ce qu'on sait ce que c'est ?» La crise d'adolescence, au-delà d'être une crise où il y a plein de choses qui sont en train de prendre place en eux, c'est aussi ces derniers qui entrent dans une quête d'identité. Et c'est le défi majeur de cette phase. Denis Morissette dira pour l'adolescent, découvrir qui il est va lui procurer le sentiment de contrôle nécessaire pour naviguer le reste de sa vie. Cette quête, elle est parfois angoissante. Entre 12 et 20 ans, l'adolescent est amené à définir qui il va être. Mes amis, n'ayez pas peur des cheveux bleus. N'ayez pas peur des jeans troués. N'ayez pas peur des je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est juste de la recherche à se différencier par rapport à vous qui êtes les parents. Et c'est normal. Ils cherchent à savoir qui ils sont. Ils cherchent à se différencier, de dire « non, je ne suis pas mon père, non, je ne suis pas ma mère ». Et ils sont dans cette période de tâtonnement où ils essayent de se construire. Et ici, le contrôle ne marche plus. Mais je crois que c'est l'influence qui fera la différence. Le contrôle ne marche plus. Ils vont plus se contenter qu'on leur dise « tu dois faire ci, tu dois faire ça, je suis ta mère » ou « tu dois pas faire ci, tu dois pas faire cela ». Ils se contentent plus de ça. Il faut passer maintenant, et ça c'est un challenge, du commandement à la pédagogie, en sensibilisant, en expliquant les dangers. Peut-être en leur expliquant aussi votre expérience, parce que vous êtes juste jeune depuis plus longtemps qu'eux. Et comment, face aux mêmes défis, comment vous avez surmonté ces choses-là? Bref, expliquez-leur le pourquoi du comment. Pas juste « c'est comme ça parce que je te dis que c'est comme ça ». Vous savez, j'ai vu tant de jeunes de mon âge lorsque j'étais adolescent dans l'église, dont les parents imposaient de venir à l'église, mais non seulement cela, ils imposaient une éthique chrétienne à leurs enfants. Mes amis, quand ces amis ont eu 18 ans, ils ont pris la tangente et encore aujourd'hui, ils ne sont pas à Jésus. Parce qu'on a voulu leur imposer l'évangile. On a voulu leur imposer des préceptes chrétiens sur leur vie. Je remercie Dieu pour mes parents, pour ma mère, qui a tellement pris le temps de me sensibiliser sur certaines choses, mais surtout qui était une femme de prière, avec ma grande sœur, qui se tenait à genoux pour pas que je fasse n'importe quoi. Alors oui, ça m'est arrivé très souvent les week-ends de rentrer très... Je ne sais pas si on dit très tôt ou très tard le matin, le dimanche. Je ne sais pas comment on fait. De rentrer très tard, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli. Mais je sais une chose, c'est que lorsque je suis revenu à Jésus, alors que j'essayais de me construire une identité, que j'essayais d'exister dans le regard de mes amis, de mes potes, etc., et que tout ça, ça n'a pas comblé mon cœur. Lorsque je suis revenu à Jésus, j'ai compris que mon identité ne dépendait pas de ce que les autres pouvaient penser de moi, mais que mon identité dépendait de ce que Jésus a accompli pour moi. C'est la grâce qui pardonne, c'est la grâce qui transforme encore aujourd'hui. Je sais pourquoi je suis revenu à Dieu. Mes amis, votre objectif n'est pas de brider vos enfants pour qu'ils restent purs spirituellement, pour qu'ils restent purs sexuellement. Je vais dire une phrase qui va choquer ce matin, mais ce n'est pas grave. Un vierge sans Jésus, c'est un vierge qui va en enfer. Un vierge sans Jésus, c'est un vierge qui va en enfer. Alors on n'est pas en train de dire, ben laissez-leur faire ce qu'ils veulent, non. On l'a dit avec pédagogie, expliquez-leur, sensibilisez-leur. Mais ce n'est pas la moralité qui nous amène au ciel. Ce n'est pas de vivre une marche chrétienne qui fait de nous un chrétien. Ce qui fait de nous un chrétien, c'est le sacrifice de Jésus à la croix, reçu par la foi, qui vient prendre et faire des différences dans nos vies. Le moralisme ne sauve personne. La grâce sauve. La grâce de Dieu sauve. On ne peut pas vivre la marche chrétienne sans expérimenter l'œuvre de la croix dans nos vies. C'est impossible. Mes amis, priez pour vos enfants, priez pour vos jeunes. Alors que vos enfants passent de l'enfance à l'adolescence, apprenez à passer du contrôle à l'influence. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous inscrire à la formation avec Luigi Davi le 13 mai, qui a fait une thèse de doctorat sur les ados. Alors ne manquez pas ça. Si vous êtes challengé dans votre vie de parent et dire « purée, c'est dur » parce que oui, ils nous excitent. Alors moi, j'en ai pas, mais j'ai des amis qui en ont. Oui, ils peuvent nous exciter, les gamins. Comment faire face pour les accompagner du mieux qu'on peut pour qu'ils puissent un jour prendre leur décision de suivre Jésus? C'est notre objectif. C'est notre objectif. Parlons maintenant de la transmission du royaume à nos amis et à nos collègues. Oui, on le croit, Dieu va établir son règne, comme l'annonce l'Ancien Testament. Et ce règne, Jésus est venu l'inaugurer. Mais pour l'instant, la puissance de ce règne se manifeste par la parole, par l'annonce de l'évangile, plutôt discrètement que de manière triomphale. Mais je crois que le royaume avance une personne à la fois. Une personne à la fois. Oui, Dieu va juger ses ennemis, comme l'annonce l'Ancien Testament. Mais pour l'instant, comme le dit Jean dans son évangile, Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On voit personne, parfois des chrétiens sur les réseaux sociaux être comme excités lorsqu'on parle de l'enfer. Lorsqu'ils veulent témoigner à des gens, ils sont en train de mettre tout le temps l'enfer, le jugement en avant. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils essayent de transmettre le royaume par la peur. En suscitant une peur dans le cœur des gens pour qu'ils viennent à Christ. Mais ce n'est pas ça qui change la vie des gens. Une peur de l'enfer, une peur du jugement. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai prêché un message sur l'enfer et il y a une famille qui est venue me voir. Ça, c'est l'évangile. Il y avait comme une espèce de jubilation parce qu'on avait prononcé le mot enfer dans notre message. Parce que ça y est, c'est ça, il y a un jugement qui vient. Mes amis, je crois que l'enfer est une réalité. Mais je crois que l'enfer doit être prêché avec larmes. Parce que Jésus veut sauver. Jésus ne veut pas enfoncer et condamner, il veut sauver et transformer des vies. Et la peur ne transforme personne, seule la grâce le fait. Seule la grâce de Dieu est capable de renverser des raisonnements. Je crois que le royaume ne se transmet pas par la peur, mais il se transmet avec cœur. Avec cœur, en se déversant pour les gens. Vous savez, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour être tourné vers les autres, dans la relation, parce que c'est ce qu'on voit dans la Bible. C'est que notre Dieu est quelqu'un qui se donne, qui s'ouvre, qui s'offre, qui se transmet. Le problème, c'est que le péché est entré dans le monde et a fait tourner, a déformé cette image de Dieu. L'égoïsme, l'égocentrisme est venu. Ça a déformé cette image. Mais le cœur de l'évangile, c'est que Dieu veut restaurer l'image, son image, dans la vie des hommes et des femmes qui nous entourent. Il veut restaurer cette image. Il ne veut pas la détruire, il veut la restaurer, la rétablir, la guérir, la penser, la changer. C'est ça le cœur de l'évangile. Que nos contemporains, que nos amis, nos collègues, notre famille puissent devenir ce pour quoi ils ont été créés. Pour être les pieds et les mains de Jésus avec nous. Amen. Pour cela, ils n'ont pas besoin qu'on balance des versets pour dire « Ah, j'ai évangélisé, c'est bon, j'ai fait mon job. » Ils ont juste besoin qu'on s'investisse, qu'on prenne du temps. On n'a pas arrêté de vous parler de relations toute l'année, puis ce n'est pas fini. Mais Dieu veut des relations. Il veut qu'on s'investisse dans les gens, dans ceux qui nous entourent. Ils ont besoin qu'on les rejoigne. Regardez même les paraboles en elles-mêmes, et c'est Alfred Kuhn qui nous dira ça. Comme Jésus a utilisé des paraboles faisant appel à la vie quotidienne de ses concitoyens, celui qui enseigne les vérités de la foi doit s'ingénier à trouver dans la vie actuelle des images et des paraboles illustrant des grandes vérités anciennes, afin de les faire comprendre aujourd'hui. On a besoin de comprendre ce que les gens vivent dans leur vie au quotidien. Et aussi, peut-être une réponse pour vous ce matin, voilà pourquoi on a des lumières bleues, roses, vertes qui changent de couleur sur l'estrade le dimanche matin. On est dans une génération qui vibre au travers de ça. C'est juste un moyen. C'est de permettre à des gens d'être dans quelque chose qu'ils connaissent pour leur communiquer un message éternel qui ne change pas. Notre désir à nous, ce n'est pas de voir de la fumée des lumières, c'est qu'un moyen pour que le nom de Jésus vienne changer des vies. Et je remercie Dieu pour les 10 baptêmes qu'il y a eu, et puis les 11 qui arrivent, et tous ceux et celles qui s'avancent et qui disent « J'ai compris que j'ai besoin de la grâce de Jésus dans ma vie. » Tout ceci n'est qu'un moyen, un outil. On n'idolâtre pas l'outil, ça se trouve, dans 20 ans, les lumières seront plus bleues, elles seront... Enfin, on verra, on demandera à ChatGPT ce qu'il faudra faire. C'est qu'un moyen. Voilà pourquoi à l'EPI, on veut une louange contemporaine. Pourquoi il y a des lumières. Voilà pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Le but, c'est de bâtir des ponts avec notre culture, pas ériger des murs. On n'est pas là pour se protéger d'un monde nouveau, non. Jésus n'a pas dit « Soyez l'Église et protégez-vous ». Il a dit « Soyez l'Église et allez ». Soyez l'Église et allez, rejoignez les gens là où ils en sont. Il nous faut connecter. C'est exactement ce que Paul a fait en Actes 17. Alors qu'il va prêcher en Grèce, qu'il y a des idoles, toutes ces choses dans Actes 17. On nous dit que Paul va utiliser une idole pour annoncer la bonne nouvelle. Acte 17, 23, en effet, et c'est Paul qui parle, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte. Donc il prenait le temps d'examiner ce qui se passait autour de lui. Il n'était pas dans son microcosme évangélique. Il a pris le temps d'examiner ce qui se passait. Il dit « J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître. » C'est celui que je vous annonce. Paul rejoignait les gens. Et nous sommes appelés à rejoindre les gens. On a besoin de connaître les gens, ce qu'ils vivent, ce qui nous entoure. On a besoin de prendre le temps de les écouter. On le dit souvent, deux oreilles, une bouche. C'est pour plus écouter que de parler. On a besoin d'écouter ce qui se passe, les besoins, les situations, les souffrances, ce que les gens peuvent vivre autour de nous. J'aimerais vous donner une statistique. Il y a une enquête qui a été faite à propos de 8000 personnes pour savoir c'est quoi qui a été le déclic dans leur conversion à Jésus-Christ, de pourquoi ils ont accepté Jésus comme sauveur. Et les chiffres sont intéressants. On nous dit que pour 70 à 90%, c'est le témoignage d'un ami ou d'une relation. 70 à 90%. L'étape d'après, pour 6 à 8%, le ministère en place. Et oui, les pasteurs, désolé, c'est pas grâce à nous que ça se passe. Pour 6 à 8% seulement, l'homme de Dieu, le ministère ou tout ce qu'on peut entendre derrière. Et si on continue, pour 2 à 4% les programmes, ce qui est fait pour les enfants, etc. Et enfin, pour seulement 1 à 2%, une intervention surnaturelle du Saint-Esprit. J'ai envie de nous poser une question ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit ne préfère pas agir au travers des personnes que nous sommes dans ce lieu? Est-ce que Dieu n'a pas choisi que nous soyons son intermédiaire ? Par la puissance de son esprit, pour repérer des changements dans les vies de celles et ceux qui ont tant besoin de lui. Posons-nous cette question. Ne suis-je pas l'instrument du Saint-Esprit ce matin pour communiquer l'Évangile? Le Saint-Esprit veut agir au travers de nous. Oui, il veut faire des miracles, on le croit encore aujourd'hui. Mais premièrement, il veut agir au travers de son Église. Il n'a pas choisi que nous soyons des spectateurs. Il a voulu nous rendre Église acteurs avec lui. Dieu veut rejoindre les gens dans leurs besoins. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va nous demander de la consécration. Ça va nous demander de l'énergie. Ça va nous demander de nous détourner les regards du miroir dans lequel on aime se contempler et dire combien je suis bon, pour commencer à regarder l'autre dans les yeux, pour commencer à écouter le cœur de l'autre et de ce qu'il peut vivre ou traverser. Alors, il y en a qui pourraient tenter de dire oui, mais tout ça là, c'est du spectacle. Tout ça, c'est pas vraiment l'évangile, c'est plus l'évangile. C'est un supermarché de biens de consommation où on donne aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et j'ai envie de vous inviter à regarder comment Jésus se révèle dans la Bible et comment Dieu se révèle notamment dans l'Ancien Testament. Quand des gens sont venus le voir et sont venus vers Dieu, ils lui ont demandé « Mais quel est ton nom ? Quel est ton nom ?» Dieu a répondu en se révélant lui-même en fonction des besoins des gens qui lui posaient la question. Quand il y a des gens qui sont venus qui avaient besoin d'un miracle, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jiré, je suis celui qui pourvoit. Quand les gens ont eu besoin de réconfort, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Shalom, je suis ta paix. Quand les gens, ceux qui sont venus à lui, avaient besoin de salut, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Tsikenu, je suis ta justice. Voilà comment notre Dieu agit, mes amis. Il rejoint les gens dans leurs besoins. Il rejoint, et je vais inviter l'équipe à venir. Vous pouvez commencer à jouer alors qu'on va conclure, mais on a un Dieu qui vient connecter, un Dieu qui cherche à se révéler. C'est pour ça qu'on a la Bible. Il a utilisé des mots parce que c'est le moyen par lequel il veut parler à nos cœurs encore ce matin. Jésus ne se contente pas, dans toutes ses paraboles, de décrire le royaume et comment il fonctionne, mais il nous met au défi de remplir notre mission. Nous avons reçu son évangile, son royaume, comme un trésor. Et son esprit vit en nous. Et je crois qu'il nous appelle ce matin, encore en tant qu'église, à sortir de notre zone de confort et de commencer à proposer, à exposer, à partager le royaume dans les sphères où il nous a placés. Bien souvent, les gens disent « Ah, mais j'attends que Dieu m'envoie quelque part ». Mais brille là où tu es. Brille avec ce que Dieu t'a donné. Brille là où tu es. Dieu t'appelle à briller ce matin. Il nous appelle à transmettre le royaume une personne à la fois. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir prendre du temps avec chacun de toutes les situations qui sont autour de nous. Mais tous, nous avons une, deux, trois, une petite sphère de personnes dans laquelle on va pouvoir se déverser, partager, encourager, fortifier ceux qui nous entourent. Y a-t-il une église ce matin qui veut se lever ? Y a-t-il une église ce matin qui veut se lever alors que les ténèbres sont en train de s'épaissir autour de nous ? Pasteur Glenn Smith dira souvent, c'est lorsque les ténèbres s'épaississent que c'est là où doit briller la lumière. Nous avons été appelés à refléter la lumière Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une église qui veut se lever ce matin pour dire « Oui, je veux répondre à cet appel. Seigneur, tu attends des choses de moi. » Oui, il y a un jugement qui s'en vient lors du retour de Jésus. Mais est-ce qu'il y a une église ce matin qui, avec cœur, veut se déverser auprès de ceux et celles qui l'entourent afin qu'ils puissent vivre l'expérience de la réconciliation avec le ciel ? De vivre cette réconciliation qui va venir libérer et transformer des vies captives. Y a-t-il un peuple ce matin qui veut répondre à l'appel du « Me voici, envoie-moi » alors que les yeux sont fermés ce matin? Si tu te sens interpellé dans ton cœur, tu sens que Dieu te challenge, peut-être à détourner les regards de toi-même et dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi ?» Je t'invite simplement à te lever alors qu'on va prendre ce chant qui dit « Me voici, envoie-moi ». Ça puisse être une réponse ce matin. De dire « Oui Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je sens que tu es en train de faire bouillonner quelque chose dans mon cœur. Je veux être cette église, je veux incarner tes pieds et tes mains. Alors qu'il y a tant d'hommes et de femmes autour de moi qui sont en train de galérer. Jésus veut t'utiliser, Jésus veut se servir de toi ce matin. Alors si c'est notre cas, église de l'Épi, levons-nous et proclamons « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Thank you.
consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Cette prière ensemble. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne. Ce que tu veux de moi. Quelle prière de foi nous chantons ce matin, Église. Tu es bon. Je veux consacrer.
Je veux consacrer ma vie,
dans ma famille, au travail,
pour que ton royaume vienne,
dans mes amitiés, dans mon couple,
revêtu de ton esprit. Les nations se prosternent.
Rends-moi sensible, Seigneur.
Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi.
Rends-moi sensible à ta voix.
Rends-moi sensible à ta voix.
Quand je parle à cette personne, rends-moi dépendant, Seigneur.
Rends-moi dépendant de toi. Me voici. Envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi.
Me voici ensemble,
me voici, envoie-moi. Ce que tu veux.
Faisons cette déclaration. Je veux déclarer.
Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même s'il est dans le monde, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je réponds. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi.
Est-ce qu'on peut prendre un instant juste en fermant les yeux dans ce lieu ? Et visualiser ensemble des personnes qu'on peut peut-être fréquenter au quotidien et qu'on va fréquenter cette semaine, avec qui on va être en relation. Ça peut être votre père, votre mère, ça peut être vos enfants. Ça peut être la voisine ou le voisin à qui vous dites bonjour à chaque jour. Ça peut être des collègues de travail. De prendre un temps de prière en notre âme pour toutes ces personnes avec qui nous sommes en relation, avec qui nous vivons en société. Peut-être même quelqu'un avec qui vous allez avoir une visio cette semaine. Et pendant qu'on pense à ces personnes, nous pensons à vous qui êtes en ligne aussi. Et en tant qu'Église de l'Épi, nous avons à cœur de bénir toutes les personnes qui nous rejoignent à chaque dimanche. Alors nous prions que le royaume de Dieu, ce trésor de Dieu, enrichisse votre vie de la présence de Dieu. Pensons à ces personnes. Papy, mamie, pense à tes petits-enfants. Papa, maman, à tes enfants. Époux, épouse, pensez aux uns aux autres. Peut-être même c'est l'image du patron qui vient à votre esprit. Bénissez votre patron ce matin. Vous êtes peut-être parti manifester. Vous allez peut-être vivre différentes situations dans ce domaine-là. Pensez aux gens avec qui vous serez. Et faites cette prière profonde que le royaume de Dieu s'approche d'eux, Seigneur. Que le royaume de Dieu, que le trésor de l'Évangile par moi puisse s'approcher. Donne-moi de voir comme tu vois. Et on fait cette prière, je veux déclarer au monde. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots, tu vas peut-être aller à l'hôpital, mais tu vas chanter l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Ce que tu veux, me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-nous Seigneur. Conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour moi. Nous voici, envoie-nous, envoie-nous, nous voici, nous voici, conduis-nous, nous voici. Façonne-nous, fais ce que tu veux de nous. C'est notre prière, Seigneur. Tout n'est pas parfait, mais notre Dieu est parfait. Amen. On vous souhaite une bonne semaine, mais avant, on va chanter encore que nous soyons l'écho de la voix de Dieu. On va finir en louange, parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, et la Bible nous annonce ceci, la victoire précède, la louange, pardon, précède la victoire. La louange précède la vie en Dieu. Et on veut juste le prendre encore avec vous. Comme ça, on va pouvoir vraiment être l'écho de la voix de Dieu. OK? Ouais, c'est beau de voir une église internationale qui a le rythme dans la peau, c'est incroyable. Des Alsaciens qui tapent sur le 2 et le 4. Des Philippines jusqu'à l'Alsace, en passant par la Côte d'Ivoire, par le Congo, par l'île de la Réunion, par les Antilles, par l'Italie. Alléluia! Hey! Allez, on maintient le rythme et on chante ensemble. Quand la nuit tombe et l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Oui. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Oui. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Avec moi, ton amour m'environne et le plus haut. Il résonne dans mon âme, il est un écho. Ton amour m'environne et le plus haut. Il résonne dans mon âme, il est un écho. Écho en mon âme. À chaque saison ensemble. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Oh, oh, qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est le plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il est le plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais le plus haut. Il résonne dans mon âme, c'est un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon un, deux, trois. Hey, ton amour m'environne, mais le plus haut. La joie du Seigneur est notre force ce matin. Hey. Ta joie, Seigneur.
Ton amour m'environne,
lève
le plus haut.
Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh 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 oh. Écho en mon âme. Oh 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 oh. Souhaitons une bonne semaine de théologie pratique. Soyez des bons transmetteurs de l'Évangile. Soyez bénis. Bonne semaine à vous.